Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions est connu. Les clubs français ont été plutôt épargnés. Bonsoir Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1. Nous sommes également avec Marc Libra, ancien joueur de l'Olympique de Marseille.
Bonsoir.
Votre consultant, hein, vous le connaissez, il intervient très régulièrement sur notre antenne. Tout comme Jimmy Algerino, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Alors, salut, Jimmy. Jean-François Pérez, je vous propose de rappeler dans quel groupe sont tombés nos deux clubs français, le Paris Saint-Germain d'un côté, l'Olympique de Marseille de l'autre.
Le champion de France, le Paris Saint-Germain, qui tombe dans un groupe très, très dense, en même temps relativement abordable, mais il y a des noms prestigieux. Donc le PSG sera avec la Juventus de Turin, avec le Benfica Lisbonne et avec les champions d'Israël, le Maccabi Haïfa. Quant à l'Olympique de Marseille, ce sera dans le groupe D avec l'Eintracht de Francfort qui était l'une des têtes de série, on va dire, les plus abordables du lot.
Et qui s'est retrouvée tête de série parce que ce sont les vainqueurs
de la Ligue Europa, petite, entre guillemets, Coupe d'Europe. Tottenham, les Anglais, le Sporting du Portugal, donc seront les trois adversaires de l'Olympique de Marseille. On peut quand même rappeler les trois ou quatre groupes les plus marquants,
pour ne pas parler que
des clubs français. Il y aura un groupe C formidable en perspective avec le Bayern Munich, le FC Barcelone, l'Inter Milan et les Tchèques de Pilsen. Mais évidemment, Bayern, Barça, Inter, ça fait penser à beaucoup de confrontations européennes et notamment Bayern-Barça avec les retrouvailles de Robert Lewandowski qui vient de quitter le Bayern et qui a signé au Barça dans une atmosphère qui était, on va dire, moyennement conviviale. Il y aura également un beau groupe à suivre, ce sera le groupe A avec, pour les amoureux du foot, l'Ajax d'Amsterdam, club mythique, Liverpool, autre club mythique, ou encore Naples. Donc vous avez quand même vraiment de quoi faire. Quant au Real Madrid, le tenant du titre, il a été relativement épargné, voire très largement, avec Leipzig, avec le Shakhtar Donetsk, mais le club ukrainien jouera sans doute en Pologne, et le Celtic Glasgow. Voilà ce qu'on pouvait dire. Vous avez aussi le groupe G avec Manchester City, le FC Séville et le Borussia Dortmund qui sera quand même assez sympa à suivre.
Alors j'aimerais qu'on commence par l'Olympique de Marseille qui a été relativement épargné. J'ai envie de dire très épargné parce que Marseille aurait pu tomber sur bien plus lourd, Marc Libra.
On va dire que c'est le tirage pour moi le plus facile pour les Olympiens. Quand on voit tout ce comme l'Ajax, Liverpool, Bayern, Barcelone, il y a qu'une grosse équipe pour moi, c'est Tottenham. Ça met une pression supplémentaire sur les Marseillais parce que je pense que vraiment ils ont les capacités sur ce qu'on a vu depuis le début de la saison pour sortir de cette poule et peut-être de passer en huitième. On va se rappeler que l'Olympique de Marseille, depuis 2012-2013, on les a pas vus en huitième. Et je suis, alors j'entends déjà, oui, mais c'est une poule au rabais, c'est Ligue Europa, oui, enfin, entre guillemets. Que ça soit Francfort, quand on voit le début de saison, ils se sont fait étrier face au Bayern 6-1, ils ont été face au Real, la Super Coupe face au Real, ils ont perdu aussi. Ils font un début de championnat très compliqué.
Ouais, ils sont 15e.
Ils sont 15e. Je pense que l'Olympique de Marseille a ses chances. Et le Sporting qui, depuis 2021, champion du Portugal, qui a fait un petit peu la dragée haute à Porto, à Benfica, est un petit peu dans le creux. Ils sont 10e cette saison. Voilà, je pense que Marseille a vraiment une carte à jouer. Et c'est vrai qu'avant, on pouvait se poser la question, avant le tirage, non mais Marseille, on entendait, Marseille n'y va pour rien, ils n'ont pas d'équipe, ça va être compliqué. Quand on voit le tirage, et on peut commencer à rêver.
Et c'est un groupe de Ligue des Champions, c'est un groupe qui a été tiré au sort. Voilà, ce sont des équipes de Ligue des Champions, c'est comme ça.
Oui, d'autant, Raphaël, qu'il faut quand même rappeler que ces dernières années, l'Olympique de Marseille a chaque fois tombé sur des groupes extrêmement difficiles. Hein. On rappelle qu'il y a 2 ans, l'OM n'avait pas existé, ça avait fait rire pas mal de détracteurs, mais l'OM était quand même dans le groupe de Manchester City ou encore de Porto. Les années précédentes, c'était le Bayern Munich, c'était le Borussia Dortmund, c'était Arsenal. Enfin voilà, l'OM a joué la plupart du temps contre des adversaires qui était bien plus fort que lui. Là, pour une fois, en Ligue des Champions, c'est homogène et il y a une vraie chance de qualification pour les huitièmes de finale. Et j'allais dire une grande chance, si les Marseillais jouent bien le coup, de finir troisième au pire et d'aller en Ligue Europa.
Ah, Jimmy Algerino, c'est l'OM a sa chance, là, clairement.
Complètement, Marc l'a très bien dit. C'est homogène, il n'y a pas de grosses équipes, donc ça va permettre à l'OM de, avec le passé que l'on connaît, d'essayer de faire la différence et, comme Jeff l'a dit, au moins terminer dans les deux premiers, voire toucher la troisième place et continuer le challenge européen.
Bon, alors du côté du Paris Saint-Germain, on va avoir un PSG-Juve. Ça faisait longtemps ça, qu'on n'avait pas vu cet affrontement
grosse,
en Ligue des Champions.
Grosse vingtaine d'années, pour ne pas dire trentaine bientôt. Ouais. Et d'ailleurs, vous avez quelqu'un là en ce moment avec nous qui est l'un des protagonistes
du dernier Juventus-Paris Saint-Germain.
Opposition entre les deux clubs.
Jimmy Algerino, ça vous fait forcément plaisir. Il y a du vintage là.
Ben, j'espère surtout que les Parisiens vengeront de cette défaite cuisante qu'on avait eue au Parc.
Rappelez-nous l'année, le score, sinon.
C'était en 96, c'était non, 97, c'était en janvier, et on avait pris 6-1 au Parc, et au match retour à Palerme, le match s'était joué à Palerme, on avait perdu 3-1 sur la Super Coupe d'Europe.
Bon, il y a peu de chances que ça se passe comme ça cette saison quand même.
Je pense que ça peut se passer vu le début de saison des Parisiens. Je pense que ça peut se passer à l'inverse, et c'est pour ça que ça peut aussi faire des scores assez importants, parce que quand on voit l'effectif de la Juve, hormis bien sûr le retour de Di Maria et peut-être aussi de Rabiot, parce que l'enfant terrible du club. Donc ça, c'est vrai qu'il n'y a pas photo entre les deux clubs.
À la décharge de Jimmy, il y a quand même une équipe exceptionnelle de la Juventus avec un Zidane qui était en train d'exploser littéralement. Donc non, mais c'était pas si facile que ça, même si c'était en janvier la reprise. Croyez-moi, ils ont eu affaire à une équipe de folie.
Voilà, et puis alors, nos deux clubs français tombent avec des clubs portugais. Les affrontements entre les clubs français et les clubs portugais, c'est toujours sympathique. Hein. Marseille aura le Sporting et le Paris Saint-Germain, le Benfica-Lisbonne. Il y a une longue histoire aussi des PSG-Benfica. Hein.
Ouais, c'est l'un des adversaires. De toute façon, le Benfica, c'est... Voilà, c'est un géant d'Europe, c'est l'ancien club d'Eusebio, ils ont déjà gagné plusieurs fois la Coupe d'Europe des clubs champions, ça ne s'appelait pas encore la Ligue des champions, et c'est un club qui a toujours maintenu au niveau national portugais un niveau dans le top 3 avec très fréquemment des joueurs qui explosent là-bas, qui deviennent de grandes stars ensuite. Donc il y aura là-bas à Lisbonne un stade de la Luz, le stade de la Lumière, qui sera évidemment plein. Il y aura 80-90 000 spectateurs. Ça sera un spectacle magnifique. À la Juve aussi. À Haïfa, on va quand même dire quelques mots aussi. Vous allez peut-être relancer Jimmy sur Benfica. Mais à Haïfa, ce sera également beaucoup de passion, même si c'est un adversaire évidemment beaucoup plus abordable. Mm-hmm. Mais on rappelle que le PSG va retourner en Israël, hein, puisqu'il y a quelques semaines, pour le trophée des champions français, ils étaient déjà allés en Israël pour battre les Nantais et remporter leur premier trophée entre guillemets de la saison.
Jimmy Algerino, quand on reçoit une équipe portugaise à la maison, il y a aussi souvent de l'ambiance hein, à Paris.
Bah ouais, les tribunes sont bien fournies par la population portugaise de Paris. Mais bon, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a beaucoup de Portugais dans l'équipe du Paris Saint-Germain et puis aussi au niveau du staff, parce que ce soit avec Campos ou avec Antero Henrique. Donc ça veut dire aussi que le Paris Saint-Germain va connaître parfaitement cette équipe et pouvoir la contrer, voir la mener sur le terrain, que ce soit à domicile et aussi à l'extérieur. Donc ça, c'est un gros avantage. Et puis il ne faut pas oublier non plus qu'il y a quand même l'attaquant Gonzalo Ramos qui est toujours apparemment intéressant pour le Paris Saint-Germain. Le club apparemment serait peut-être susceptible de le recruter. Donc ça fait pas mal d'infos et pas mal de possibilités pour le Paris Saint-Germain d'avoir le dessus sur cette équipe.
Marc Libra, du côté de Marseille, ce sera le Sporting Lisbonne. Là aussi, ouais. Hein, c'est un match à prendre très au sérieux.
Oui, c'est toujours très important. Comme on parlait de ce groupe, c'est Tottenham, pour moi, la meilleure équipe. Mais
que ça Tottenham, soit... bien
oui,
sûr.
Oui, non, hein. Mais pour le Sporting, actuellement, ça peut être... Il y a un coup à faire pour l'Olympique de Marseille. C'est un très mauvais début de saison.
En fait, tout le monde a son coup à jouer. Quoi. Tout le monde a
la
sa chance.
La Coupe de l'OM
Oui, bien sûr.
Monde peut finir premier, tout le monde peut finir quatrième, à part Tottenham qui est au-dessus.
Tottenham qui... Ah oui. Il ne faut pas se leurrer, depuis 4-5 ans, Tottenham fait partie des grosses équipes qui sont capables.
Ancien finaliste hein, de la Ligue des Champions.
Ancien finaliste, saison passée, ils finissent quatrième dans le Big Four de la Première Ligue. Donc c'est une équipe avec des joueurs très importants, Harry Kane et Nudson qui sont devant. On sait de quoi on parle, mais c'est vrai que le Sporting reste quand même une équipe qui sait jouer au football, qui joue. Mais encore une fois, Marseille a toutes ses chances. Et encore, il y a une chose dont on n'a pas parlé et qui pour moi me choque. Alors je n'ai pas crié. Mais on ne sait toujours pas contre qui on va tomber. Quoi. Le problème, c'est qu'on ne sait pas première, deuxième, troisième. Alors, on nous a dit, mais c'est vendredi ou samedi, vous inquiétez pas, on aura le tirage au sort. Et ça, pour moi, je vous assure, c'est primordial. Comment démarrer
le calendrier des rencontres.
Le calendrier, on ne sait pas qui on va rencontrer. Que ce soit Paris, Marseille, on ne le sait pas encore. Donc, ça sera ou vendredi ou samedi, on nous a dit. Alors, c'est magnifique. C'est le nouveau système c'est le nouveau système. Et croyez-moi, une compétition, et Jimmy peut en témoigner, il faut bien démarrer. Si vous croisez Tottenham dès le départ et vous prenez une rouste en Angleterre, C'est totalement différent. Donc à l'heure actuelle, il faut
c'est important l'ordre des matchs. C'est vrai que quand il y a le tirage de la Coupe du Monde, on le sait tout de suite. Jean-François Pérez,
à l'époque, on va dire qu'on s'entendait assez rapidement sur les matchs. Même parfois, ils étaient décidés tout de suite en même temps que le tirage au sort. Mmh. Donc une heure après, on avait en gros le calendrier et les dates. Aujourd'hui, il y a tout un mélange d'algorithmes. Évidemment, toutes les dates de championnat qui doivent coïncider, intérieur, extérieur, domicile, certaines influences aussi pour démarrer à tel endroit et finir à tel autre. Donc, ce sont des négociations parfois dignes des Nations Unies pour arriver à établir un calendrier.
On parle que de football quand même. Hein. Ouais.
Donc, si j'ai bien compris,
c'est la Ligue des Champions. C'est un peu plus que du football.
Pour l'Olympique de Marseille, c'est d'affronter Tottenham le plus tard possible.
Si possible.
Oui, ça veut dire qu'il les joue deux fois de suite, par contre. Hein.
Ouais, mais
c'est ça la Ligue des Champions.
Il faut mieux
dans
démarrer.
L'idéal, il faut démarrer à domicile contre le Sporting pour l'OM.
Et Jimmy Algerino pour le PSG, c'est quoi le mieux pour commencer? Maccabi Haïfa, je suppose.
Oh, ben là.
À domicile.
L'extérieur, pour être débarrassé tout de suite, je pense, du déplacement.
C'est vrai que c'est une bonne réflexion parce que ça permet déjà d'y aller, de faire le match et après de jouer différemment. Mais après, quand on sait que le Paris Saint-Germain est favori, je dirais, quel que soit le club, ça doit pas poser de problème au PSG. Et avec peut-être une préférence de jouer à domicile sur Haïfa, mais de jouer au Parc contre la Juve ou contre Benfica pour commencer parfaitement la Ligue des Champions.
Alors le PSG, quand ils sont favoris, généralement, ça leur met une grosse pression aussi. Hein.
Non, en phase de groupe, franchement, ces dernières années...
J'élargis au.
En général, le PSG fait vraiment le boulot en phase de groupe. Ils ont toujours un petit trou d'air à un moment donné, mais sur les 6 journées, en général, ils arrivent assez aisément à se qualifier. Il y a relativement peu de suspense de ce point de vue-là. C'est après que ça bloque. Maintenant, ce groupe-là, franchement, je le trouve très bon pour se préparer à la suite, en fait. Alors, le problème, c'est que vous le savez, ça fait partie des données très importantes de cette saison. Cette Ligue des Champions va se dérouler au sprint. Pendant un mois et demi.
Alors on va en parler évidemment.
Voilà, ça va démarrer dans quelques jours,
septembre,
le 6 septembre exactement.
Et finir
le 2 novembre.
Parce qu'il y a un petit événement le 2
vous
novembre.
Vous allez avoir 6 journées de poule, donc ça fait
en
à peu près
semaines.
4 semaines sur 6 où on va se retrouver avec de la Ligue des Champions, 6 semaines sur 9 si vous préférez. et derrière il y a la Coupe du Monde. Donc ça veut dire que les joueurs
l'équipe de France qui
vont partir,
des sélections qui vont partir 15
matchs,
jours
en effet de l'équipe de France.
Ça veut dire qu'il y a un grand nombre internationaux au Paris Saint-Germain, donc
tous les joueurs sont internationaux. Et quasiment tous dans des équipes
avec,
qui vont jouer la Coupe du
Monde en plein milieu. On peut avoir des joueurs blessés.
Donc ils vont partir à la Coupe du Monde en sachant s'ils sont qualifiés ou pas pour les huitièmes de finale. Et ensuite, qu'adviendra-t-il une fois que la Coupe du Monde sera terminée, des états de forme, des états de motivation de la part de certaines stars, notamment parisiennes.
Ah, ça pénalise le PSG, ça, cette Coupe du Monde en plein milieu, Jimmy Algerino.
En tout cas, ça peut les pénaliser si par exemple il y a un Juventus PSG à quelques semaines de la Coupe du Monde, et on sait que les joueurs de toute façon en vue de la Coupe du Monde vont petit à petit en tout cas c'est mon point de vue, baisser de pied ou faire attention à la blessure. Donc ça peut être problématique. Alors effectivement, la Juve, à Benfica, il y a aussi des internationaux, mais c'est vrai que ça peut être délicat parce que en vue de la Coupe du Monde, les joueurs peuvent baisser de pied, mais l'effectif parisien est tellement pléthorique qu'il y aura du monde qui pourra remplacer un Messi, un Neymar ou un Mbappé et avoir la même qualité sur le terrain.
Merci Jimmy Algerino, on vous retrouve dans quelques instants comme Marc Libra et Jean-François Pérez. On marque une courte pause et on revient sur Europe 1 pour débriefer ces groupes de la Ligue des Champions qui ont plutôt réussi à nos deux clubs français, le PSG et l'OM. A tout de suite.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Europe Soir à l'heure de la Ligue des Champions ce soir. Et oui, les groupes sont tirés. On connaît les adversaires et du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille. Le PSG affrontera la Juve, le Benfica Lisbonne et le Maccabi Haïfa. Du côté de l'Olympique de Marseille, il y a Tottenham, le Sporting Lisbonne et le dernier vainqueur de l'Europa League, l'Eintracht de Francfort. Les Allemands, on évoquait avant la pause ce calendrier très particulier cette année, puisqu'il y a la Coupe du Monde qui va arriver en plein milieu, donc il va falloir boucler la phase de groupe avant. Ça finit le 2 novembre, c'est ce que vous disiez, Marc Libra.
La Coupe du Monde débute 2 semaines après.
Voilà. Le 20 novembre, voilà, c'est ça. Au Qatar, le Paris Saint-Germain, ça peut jouer en leur défaveur parce qu'il y a beaucoup d'internationaux. En revanche, Marc Libra, du côté de l'Olympique de Marseille, c'est plutôt bien, hein.
Oui, il peut y avoir des surprises.
Je ne veux pas rappeler aux auditeurs qu'il n'y a pas beaucoup d'internationaux à l'Olympique de Marseille. Je crois qu'il n'y en a que 4. Bon, mais
Non, mais c'est vrai que pour l'Olympique de Marseille, c'est un petit peu plus facile. Mais il va y avoir cette coupure internationale, quoi qu'il arrive. L'entraîneur, on le sait, Igor Tudor, va pouvoir garder ses joueurs. Ou peut-être Guendouzi qui va partir ou pas dans le groupe, ça on ne sait pas encore. Ou Payet ou pas, mais comme il ne joue pas, on ne sait pas. Mais c'est vrai que c'est un petit peu plus intéressant pour Marseille. Maintenant, il va falloir savoir exactement le calendrier, ce qui va se passer et le début des matchs contre qui. Parce que c'est toujours pareil, s'il rencontre Tottenham dès le départ, s'il rencontre... Donc ça va jouer.
C'est toujours bien
dessus.
Un bon match de prestige aussi pour commencer une Ligue des Champions. Quoi. Oui, on sait où à peu près où est-ce qu'on en est, hein, Jean-François Pérez.
Pardon.
Quand on commence.
J'étais en train de rechercher des stats.
Non, je vous en prie. Un bon match de prestige pour commencer.
Tottenham. Tottenham dès le départ.
D'entrée.
Moi, je suis pas fan. Hein.
C'est pas mal. Moi, hein. On sait où est-ce qu'on en est. Quoi.
Étant donné que l'OM reste sur une expérience cuisante en Ligue des Champions il y a deux ans, on le rappelait tout à l'heure. Je pense qu'il vaudrait mieux débuter par le plus facile. Mmh. Et je pense vraiment que le Sporting au Stade Vélodrome, pour débuter dans une belle ambiance avec un résultat positif, ça les mettrait en jambes. Mais après, bon, voilà. On va voir. Après, pour le PSG, je pense que l'objectif, c'est de se qualifier le plus vite possible, façon à pouvoir laisser un petit peu tourner l'effectif et les choses avant de préparer la Coupe du Monde. Parce que, vous savez, les joueurs du PSG, les stars du PSG, vous parliez de l'OM avec quelques internationaux, il n'y en a pas des masses, évidemment, mais du côté du Paris Saint-Germain, quasiment tout le monde va aller jouer la Coupe du Monde. Et tous ces joueurs, ils ont envie d'arriver en pleine forme avec leur sélection. Donc, je pense qu'il va y avoir une espèce d'énorme coup d'accélérateur durant les prochaines semaines pour ensuite pouvoir un petit peu s'économiser en vue du départ en sélection qui sera à peu près quelques jours après avant la Coupe du Monde. C'est ça qui est fou.
Il n'y aura pas de préparation.
Il y a à peine une semaine. Mmh. À peine une semaine et la Coupe du Monde débutera. Donc c'est fondamental. Je pense même à la limite que pour le Paris Saint-Germain, la saison se gagne entre début septembre et mi-novembre, en fait. Voilà. S'ils arrivent à tout bien gérer, tout bien boucler et que les joueurs partent à la Coupe du Monde, l'esprit libéré, derrière, tout est possible.
Jimmy Algerino, je disais à Marc Librin, un bon Marseille-Tottenham pour rentrer de plein pied dans sa Ligue des Champions, c'est pas mal pour le PSG. Un bon match contre la Juve aussi pour commencer, c'est pas mal aussi.
Ah ben, c'est sûr que c'est des clubs historiques. Après, c'est là sur le papier, bon, il y a pas photo entre la Juve et le Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que ben, pour en tant que spectateur, en tant que
fan,
le fait d'avoir ce match, je dirais mythique, et puis se rappeler de ce match au Parc des Princes où on a pris des culottés, c'est vrai que ça serait pas mal de commencer par la Juve. Et puis, comme je vous disais, le retour de Di Maria, qui est parti, pas en catimini, mais bon, il n'y a pas eu une réelle fête pour lui. Et puis aussi,
le meilleur Rabiot. Passeur de l'histoire du club. Hein.
Exactement. Et puis Rabiot, revoir Rabiot si il reste, parce qu'il y a encore le mercato n'est pas terminé. Mais s'il reste à la Juve, ça peut être aussi pour lui l'occasion de vouloir se mettre en avant, de vouloir sortir un gros match. Donc c'est plein de petits détails comme ça qui peut faire de ce match un match assez sympa à regarder, assez intéressant.
Et Jimmy, d'après les médias italiens, Leandro Paredes serait sur le point de s'engager avec la Juve.
Effectivement.
Donc ça fait un troisième Parisien ou ex-Parisien.
Ouais. Et quand on sait un petit peu que ben, pas mal de personnes aimeraient que Paredes reste, mais bon, je pense qu'il y a une histoire aussi voilà, de fair play financier, de monnaie. Donc je pense que ça peut être aussi un intérêt pas non négligeable, parce que quand on sait la connaissance qu'a Paredes de certains joueurs du Paris Saint-Germain, dont Messi, de la tactique, de ce nouveau coach, ça peut être un pion intéressant pour la Juve pour venir contrer et qui sait peut-être mettre en difficulté le Paris Saint-Germain au Paris.
Dans quel état d'esprit on est quand on joue contre le club qu'on vient de quitter, Marc Libra?
Ça dépend dans quel état d'esprit on l'a quitté.
Et ça dépend quel club on l'a quitté aussi, évidemment.
Et quel club on a quitté. Après,
dans quelles conditions, etc.
Ouais. Paredes, est-ce qu'on l'a pris au sérieux? Est-ce qu'on l'a respecté? Tout ça en interne. Est-ce que pour partir, il prend un chèque ou pas?
On a de l'orgueil, on a envie de montrer qu'ils ont fait une erreur. Ouais.
Mais comme le dit Jimmy, il a absolument raison. C'est qu'il peut donner toutes les ficelles parce qu'il vit avec le groupe, il s'entraîne avec le groupe, il voit exactement la tactique qui est mise en place. Et ça, c'est quand même important. Et puis, l'élément pour moi, c'est quand même Di Maria. Di Maria qui, qu'on le veuille ou non, était un joueur exceptionnel et qu'on le sait, sur les matchs de Ligue des Champions, on ne peut pas lui reprocher grand-chose avec le PSG. Et on sait que peut-être sur ce genre de rencontre, on va voir son enroulé pied gauche qui peut faire peut-être la différence. Et côté Marseille, je crois que c'est Milik qui va s'engager. Donc imaginez si Milik, centre de Di Maria,
Milik,
peut-être de Milik.
Milik, centre polonais qui a trouvé un accord avec la Juve.
Vous imaginez. Vous savez, c'est les histoires qu'on aime à Marseille. Ça, on les aime, ces histoires. Non, mais
comme
on peut rêver.
Drogba, nouveau joueur de Chelsea, était venu au Parc des Princes.
Voilà.
Avait marqué plusieurs buts.
Aussi de grands joueurs.
Mais on rêve toujours.
Ceci étant
dit, mon cher.
On approche en ce moment.
Mon cher Raphaël.
Pas en rêve.
Une petite stat très intéressante que vient de me glisser Cédric Chasseur, qui est en régie. Le Benfica et la Juventus Turin, c'est 31 matchs à eux deux, 15 Benfica, 16 la Juve, contre des clubs français à domicile en Coupe d'Europe. Aucun club français ne s'est imposé sur la pelouse du Benfica ou de la Juventus.
Il voulait casser l'ambiance.
Non, mais c'est un beau défi à relever. Le PSG peut devenir le premier club français à s'imposer au stade de la Luz et au stade de la Juventus.
Ça joue, ça, les statistiques,
Julien? Ah, Julien Giannino. Si je peux me permettre, même tout court, de battre la Juventus de Turin, parce que je crois que depuis 96, même avant, la Juve est invaincue contre le Paris Saint-Germain.
Ben voilà. Donc il y a vraiment, malgré tout, des stats, une histoire, on va dire, à venger côté parisien pour
bon, enfin, la plupart des joueurs qui jouent au Paris Saint-Germain,
c'est les supporters qui pensent.
C'est les supporters qui pensent.
Nous, on va se rappeler. Mais...
Ouais, mais les supporters remplissent ces stades. C'est important
bien
aussi.
Sûr.
Ça fait gagner des matchs.
Donc, ça galvanise, ça motive. Ouais, ouais.
Et vous savez que les supporters du PSG sont en train de revenir avec beaucoup d'enthousiasme au parc, ce qui n'était pas forcément le cas ces derniers mois, avec une cassure très profonde entre les ultras et la direction du club et les joueurs et l'identité de ce que le PSG était en train de devenir. Il y a eu un coup de manivelle terrible avec l'effet de l'arrivée de Christophe Galtier et d'une nouvelle équipe dirigeante, avec notamment Luis Campos, le portugais. C'est un duo, hein, Luis Campos-Christophe Galtier. Et avec ce duo-là et un état d'esprit qui est devenu vraiment beaucoup plus positif, le PSG réalise l'un des meilleurs débuts de saison de l'histoire du
Français. Oui, c'est ça porte ses fruits. On n'a jamais vu le Paris Saint-Germain plus l'air qatari.
Juste Rennes, il y a 60 ans, qui avait pris un début aussi tonitruant, mais pour le PSG, c'est du jamais
dans
vu.
Dans l'air qatari, même,
de
je crois, depuis que voilà.
C'est jamais arrivé, ouais.
Non, mais il y a des moyens aussi considérables.
À ce niveau-là.
17 buts en 3 matchs.
17 buts en 3 matchs. Si on met face à Nantes 4-0, ça fait 21 buts. Mais c'est même pas les buts, c'est la façon. Quand on voit ce qu'ils ont fait ce week-end, c'est un véritable plaisir de les voir jouer à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on voit une équipe. Et là, on prend du plaisir. Oui. Et Jimmy doit être content parce qu'on retrouve l'âme d'une équipe. Et s'ils sont à ce niveau-là, mais ils pouvaient mettre la joue, ils pouvaient mettre qui vous voulez en face, Paris va leur marcher dessus. Par contre, il faut garder cet état d'esprit, cette mentalité, qui est exceptionnelle pour moi à l'heure actuelle.
Alors, on parlait des joueurs qui allaient avoir des retrouvailles avec l'équipe qui venait de quitter. Robert Lewandowski, le Polonais, transféré au FC Barcelone. Le Barça tombe comme par hasard dans le groupe du Bayern Munich. Ouais. Là aussi, c'est une belle affiche de prestige. On se frotte les mains à l'idée de l'avoir, Jean-François Pérez.
Ouais, ça va être sans doute formidable parce que le Bayern, qui depuis quelques années est l'une des plus belles machines du foot européen, hein, champion d'Europe en 2020 notamment, face au Paris Saint-Germain, le Bayern est un petit peu sur la crête. Ça commence peut-être un petit peu à descendre, notamment parce que le grand buteur du Bayern, le Polonais Lewandowski, a quitté le club pour aller au Barça. Il a été remplacé par Sadio Mané, le Sénégalais de Liverpool. Et le Barça, justement, est en train de revenir après deux saisons cauchemardesques, où vraiment le Barça était l'ombre de lui-même. Là,
mais
c'est
une saison cauchemardesque pour le Barça, c'est quand même une qualification en Ligue des Champions. Hein.
Oui, bon, après, c'est une institution telle que. Mais avec Xavi, qui est une figure historique du club, membre de l'ancien milieu de terrain extraordinaire avec Busquets et Iniesta, il a redonné vraiment le plaisir à cette équipe. Il y a eu un recrutement incroyable au Barça cet été, justement symbolisé par Lewandowski, parce que le club a su, après des années de vaches maigres financières, retrouver quelques mannes financières assez improbables. Ils ont hypothéqué une partie du club.
Bien sûr, c'est ce qu'ils ont fait.
Ils ont vendu leurs droits télé.
Exactement.
Mais le fait est que l'effectif, là, de nouveau, fait peur. Et ce Bayern-Barça s'annonce vraiment comme l'une des plus belles affiches, si ce n'est la plus belle affiche de ce premier tour en Ligue des Champions. On l'attend évidemment avec beaucoup d'impatience.
Jimmy Algerino, vous êtes plutôt Bayern-Barça, Liverpool-Naples, Milan AC Chelsea?
Non, mais là, sur le coup, Bayern, Barcelone, on est obligé de réserver, bon, on ne connaît pas le jour, mais de réserver la soirée.
Ouais. Et n'oublions pas l'Inter Milan, hein, qui est dans le même groupe également. Hein.
Voilà, donc déjà, il y a un gros club qui passera pas en huitième. Mais en tout cas, bon, je pense quand même que le Bayern, si ça se passe mal pour eux, ils seront contents quand même que ça soit pendant les qualifications, parce que se retrouver contre Barcelone en huitième de finale avec Lewandowski, tu auras déjà 4-5 mois de championnat, bon, même s'il y a eu la Coupe du Monde, ça aurait été beaucoup plus, je pense, problématique, parce que quand on sait souvent, il y a un pourcentage, mais bon, je l'ai plus en tête, mais le joueur qui revient dans son club, très souvent marque et très souvent fait gagner sa nouvelle équipe. Donc c'est pour ça que pour eux, en tout cas, c'est mieux que ça se passe pendant les qualifications qu'à huitième de finale.
Après, pour rejoindre le propos de Jimmy, Lewandowski marque à presque tous les matchs, donc c'est assez facile pour lui. J'ai pas eu cette chance, moi. Mais lui, là, en tout cas, je crois qu'il est doué à un niveau. Ce week-end, c'est son anniversaire, il a encore fait un doublé. Donc, pour, voilà, c'est une machine à but. Donc, vous êtes presque sûr, quand vous recrutez, que c'est un minima 25-30 buts par saison. Donc, 25-30 buts, il se peut qu'en fin de saison, ça soit magnifique. Et en Ligue des Champions, on attend vraiment le retour de ce Barcelone qui, dernier titre, c'est 2015, il me semble, sous l'ère Messi à l'époque. Et c'était 2015, voilà, avec les Xavi, Iniesta, enfin, tous les monstres qui étaient au milieu de terrain. Donc, c'est vrai que ça va être magnifique à voir.
Lewandowski, c'est comme un grand tennisman, un numéro un mondial sans titre du Grand Chelem, quoi, parce qu'il n'aura probablement jamais le ballon d'or, Jean-François Pérez.
Oui, bah, y a le fait qu'il soit polonais. Hein,
il aurait mérité
pas non
à
plus,
une époque.
Et le meilleur joueur UEFA de l'année, généralement.
Quand je dis
qu'il
est polonais, il faut que les gens comprennent, ce n'est pas une très grande sélection mondiale. Donc, il a très peu de chances de gagner une compétition européenne ou mondiale avec la Pologne. Donc, du coup, ça obère un petit peu ses chances de remporter le ballon d'or.
Bah, la saison où le ballon d'or lui était quasiment assuré, le ballon d'or n'a pas été attribué. Hein.
Voilà.
On le rappelle. Et cette saison, ça devrait lui échapper aussi.
Ah,
parce
sûrement,
que
c'est Benzema.
Le meilleur joueur UEFA de l'année, généralement, remporte le ballon d'or.
Et non, mais on rappelle, il n'y a pas de suspense.
On l'a appris ce soir.
Et c'est assez logique.
C'est Karim Benzema.
Et c'est assez logique. Hein. Logique pour une fois, on va dire. Hein.
Voilà,
tu vas pas être trop dur.
Voilà.
Tu
vas gérer ballon d'or de l'année précédente.
Non, on va pas faire de faux suspense non plus. Karim Benzema va succéder à Zinedine Zidane. Il va devenir le dernier
français absolument. Il va
à remporter. Jimmy Algerino, c'est mérité évidemment.
Oui, bah bien sûr, c'est mérité. Mais bon, pour moi, il y avait Benzema et Courtois. Bon, sachant qu'on ne le donne pas à un gardien de but, malheureusement, je dirais pour les gardiens de but. Donc c'est amplement mérité. Et puis surtout, quelle fierté pour le football français d'avoir un nominé et d'avoir de nouveau le ballon d'or en France.
Voilà, Benzema nommé meilleur joueur UEFA de la saison. Je vous rappelle les groupes avec les clubs français pour la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain tombe avec la Juventus de Turin, le Benfica Lisbonne et le Maccabi Haïfa, les Israéliens, l'Olympique de Marseille, plutôt vernis, parce que ça aurait pu être pire, le Sporting Portugal, l'Eintracht Francfort et le gros morceau de ce groupe D, c'est Tottenham. Merci Marc Libra, ancien joueur de l'Olympique de Marseille que vous allez retrouver toute la saison dans l'équipe d'Europe 1 Sport, tout comme Jimmy Algerino, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Bonsoir à vous et merci Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1. C'est ainsi que se referme cette dernière édition d'Europe Soir de l'été.
C'est
vrai ? En tout cas avec moi, c'était un vrai plaisir d'être avec
vous. Mais c'était réciproque, bravo.
Voilà. Enfin, mais je reviens demain pour Europe Midi, voilà, je ferai mes vrais adieux. Et puis remerciements tout particulier également à Maël Hassani, sans qui vraiment rien de tout cela n'aurait été possible. Ilka Essaka était à la réalisation ce soir. Bonsoir à tous.